Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler des résultats d'une expérimentation qu'on a menée à Open Edition et qui consistait donc en une évaluation ouverte par les pairs post-publication par un dispositif d'annotation, donc avec Hypothesis qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc très rapidement, donc je vous présenterai d'abord le contexte et l'objectif de cette expérimentation, le dispositif qu'on a utilisé, les participants et participantes à cette expérience et enfin les quelques résultats qu'on a pu observer. Donc tout d'abord concernant le contexte, donc cette expérimentation en fait elle s'est déroulée dans le cadre d'un projet européen qui était le projet européen IRMEOS qui était porté par l'infrastructure européenne Opéra. Et donc l'objectif de ce projet, c'était de mettre en place sur 5 plateformes européennes, dont Open Edition Books, des services à valeur ajoutée autour des monographies en sciences humaines et sociales. Et donc dans ces nouveaux services proposés sur ces plateformes, il y avait un service d'annotation numérique, avec donc l'outil Hypothesis. Et donc l'idée, ce n'était pas seulement de proposer ce nouveau service-là aux éditeurs ou pour les ouvrages et auteurs qui le souhaitaient, mais c'était de pouvoir mener une expérimentation, en particulier en essayant d'explorer un des usages possibles de ce type de dispositif. Donc, comme tu le disais tout à l'heure et comme je l'ai répété avec du coup, l'intitulé de cette présentation, le but c'était d'explorer donc, l'évaluation ouverte par les pairs post-publication. Donc peut-être que rapidement je peux faire un petit focus sur les principaux termes pour bien comprendre ce dont il s'agissait. Donc post-publication, donc, il s'agissait d'ouvrages déjà parus sur Open Edition Books, donc déjà en ligne et notamment, c'est un point important, accessibles en accès ouvert dans leur version, en format HTML. Par les pairs, on entendait donc une communauté de chercheurs-chercheuses associée donc à la communauté disciplinaire des auteurs et autrices qui avaient été sélectionnés pour cette expérimentation. Mais en fait, de par le dispositif d'annotation, on avait aussi la possibilité d'avoir d'autres types de publics qui pouvaient participer à l'expérimentation. Ce qu'on entend par évaluation, et notamment évaluation par les pairs, la plupart du temps, c'est plutôt le dispositif, le process qui se déroule en amont de la publication et qui a pour visée justement de valider la qualité scientifique des ouvrages en sollicitant du coup les pairs de chercheurs et chercheuses qui vont proposer leurs ouvrages pour publication. Ici, comme on est sur un dispositif post-publication, les ouvrages avaient déjà été évalués. Donc le but, ce n'était pas de refaire l'évaluation qui avait déjà eu lieu. C'était plutôt de ne pas s'intéresser donc, à un niveau tant macro, mais plutôt micro avec le dispositif donc, qui permettait de faire échanger des personnes sur des parties de texte grâce au dispositif d'annotation. Et donc par ouverte, donc évaluation ouverte par les pairs, Open Peer Review comme on peut l'entendre avec de nombreuses initiatives. Alors je ne vais pas me risquer aujourd'hui à une définition de ce que c'est l'Open Peer Review, l'évaluation ouverte par les pairs. Il peut y avoir plusieurs dimensions d'ouverture. Des chercheurs sont intéressés à la littérature scientifique sur le sujet et ont trouvé pas moins de 150 définitions de ce que ça peut être. Donc nous, en ce qui concernait cette expérimentation, donc l'ouverture, elle portait sur le fait que bon, les ouvrages en eux-mêmes étaient en accès ouvert, que les annotations pouvaient être lues par tout un chacun, qu'elles pouvaient être écrites par tout un chacun, qu'il y avait donc des possibilités d'interaction ouverte, donc les annotateurs, annotatrices pouvaient échanger entre eux. Et dans la mesure du possible, on encourageait les personnes participantes à utiliser leur identité, donc à pouvoir être identifiables entre participants. Dans la mesure du possible, ce n'était pas une obligation, mais en tout cas, on a tenté de le faire. Et un point important aussi, c'est que donc, sur le cadre de l'expérience, c'est une expérience qui s'est déroulée d'octobre 2018 à juin 2019. Il y a eu plusieurs étapes que je ne détaillerai pas ici, mais en gros, la période d'annotation elle a été assez courte en elle-même parce qu'elle a duré entre 4 et 5 mois. Alors, donc, le dispositif d'annotation qu'on a utilisé, donc Hypothesis, alors je vais le présenter rapidement seulement, mais je crois qu'il y a un atelier demain pour celles et ceux que ça intéresse, et puis pour la partie plus critique, peut-être pendant les questions, on pourra solliciter Marc. Donc, c'est un outil d'annotation numérique développé par l'organisation Hypothesis, qui est une organisation américaine. C'est un outil open source et qui permet en fait le fonctionnement de base d'Hypothesis. C'est que c'est une extension que les utilisateurs et utilisatrices vont télécharger sur leur navigateur et qui leur permet d'annoter n'importe quel texte HTML donc disponible sur le web. La manière dont on a travaillé pour, dans le cadre d'IRMEO, c'était qu'on a récupéré donc, les lignes de code d'Hypothesis afin de pouvoir l'intégrer dans nos plateformes pour qu'on puisse directement l'activer sur les ouvrages qui participaient à l'expérimentation afin de ne pas avoir du coup à demander aux participants et participantes de télécharger l'outil. Donc, les principales fonctionnalités d'Hypothesis, donc, c'est un outil qui permet de sélectionner un texte qui apparaîtra donc surligné, d'y apposer une annotation, qu'elle soit privée ou publique. On peut aussi répondre à ses propres annotations, aux annotations des autres, et on peut taguer ces annotations donc, pour les organiser, potentiellement les réutiliser après. Et après, on a quelques petites fonctionnalités pour un peu mettre en forme ces annotations, ajouter des images, etc. Une fonctionnalité qui n'est pas disponible de base dans l'outil Hypothesis, c'est la fonctionnalité de modération des annotations. Et ça, c'est un point qui est revenu lors de la délimitation du projet, qui était quand même une fonctionnalité demandée. Et donc, en fait, on a mis en place un partenariat avec Hypothesis pour bénéficier de Publisher Group. Alors, en fait, c'était des espaces d'annotation dédiés vraiment à cette expérimentation-là, qui permettaient d'avoir des fonctionnalités de modération pour les éditeurs et qui là était une fonctionnalité payante donc voilà ça nous a c'est pour ça qu'on a mis en place un partenariat à ce niveau-là. Alors très très rapidement, je ne sais pas si vous voyez quelque chose du coup avec la qualité de la projection, mais sur la partie gauche, on voit qu'on a un texte HTML. Je ne sais pas si c'est visible, mais il y a certaines parties qui sont surlignées. Quand on clique dessus, ce que j'avais fait pour l'impression d'écran, il y a l'outil d'annotation qui est sur la droite, qui est normalement une barre latérale qui se déplie et qui nous amène directement à l'annotation qui a été apposée à la partie du texte. Et on peut ensuite naviguer dans l'outil Hypothesis pour sélectionner une autre annotation. Et là, ce sera le mouvement inverse. On sera amené directement à la partie du texte HTML qui est concernée par l'annotation. Mais du coup, vous pourrez en voir plus demain aussi pendant les ateliers. Alors, donc, l'idée, c'était pour cette expérimentation, c'était de travailler avec les éditeurs qui étaient intéressés par cette expérimentation, les éditeurs de la plateforme Open Edition Books. Et donc, on a sollicité les éditeurs de notre consortium. Et donc, on a eu 4 éditeurs qui ont participé, donc les presses de l'ANSIB, la Casa de Velázquez, ENS Edition et Open Edition Press, donc qui est la petite activité éditoriale d'Open Edition. Donc on profite aussi de cette occasion pour les remercier une fois de plus pour leur participation et leur enthousiasme pour cette expérimentation. Et donc on a travaillé avec les éditeurs, d'une part communiquer un petit peu autour de cette expérimentation et aussi à sélectionner certains ouvrages participants pour l'expérience. Donc, comme on avait un calendrier assez court quand même pour cette expérimentation, l'idée c'était d'être autour d'une dizaine d'ouvrages. Et donc on a sélectionné 13 ouvrages, bien sûr avec l'accord des auteurs et autrices. C'était une condition côté éditeur, mais aussi de notre côté, côté Open Edition. Donc les éditeurs nous ont donc transmis une liste de contacts. Quasiment toutes les personnes que j'ai contactées dans ce cadre-là sont montrées très enthousiastes au fait de participer. On a eu quand même quelques réticences, mais assez peu. Par contre, tous les auteurs et autrices n'étaient pas disponibles pour participer avec le même engagement. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui clairement étaient très intéressées et qui allaient être disponibles pour répondre aux annotations des lecteurs et lectrices. D'autres personnes qui, dès le début, ont dit que sur la période de quelques mois, ça n'allait pas être possible. Donc forcément, ce n'était pas du coup les mêmes résultats aussi, entre guillemets, pour les ouvrages concernés. Les disciplines représentées, on a une surreprésentation du champ des sciences de l'information et de la communication, 7 ouvrages parmi les 13 quand même. Et ensuite, on a eu des ouvrages en histoire, sociologie, linguistique et en sciences de l'éducation. Au niveau des lecteurs et lectrices participantes, donc comme je le disais, on a fait Voilà, on a communiqué tout d'abord largement, donc en publiant des billets, en communiquant sur les réseaux sociaux, etc., sur les listes de diffusion mail. C'est pas la stratégie qui marche le mieux. En fait, ce qui fonctionnait, c'était d'aller contacter des personnes, nommément, en les identifiant, pour les inviter à participer. Et là, donc, en tout, j'ai contacté 385 personnes pour cette expérimentation. En essayant de répartir du coup pour chacun, enfin, pour les 13 livres. Et il y a eu quand même deux stratégies différentes. La première, c'était une classique recherche d'experts. Et la seconde, c'était de demander aux auteurs et autrices qui étaient disponibles et un peu plus investis dans l'expérimentation s'ils n'avaient pas une liste de contacts qui seraient potentiellement intéressés pour participer. Et on voit que, aussi peut-être sans grande surprise, que quand les personnes étaient invitées par le biais de l'auteur, elles étaient 75% à répondre contre 50%. Et là, je précise quand même que ce n'est pas 50 et 75% de personnes qui sont OK pour participer, mais juste des personnes qui répondaient aux invitations par mail. En effet, le refus était majoritaire. On a eu en fait un taux assez faible de personnes qui ont accepté ou qui sont très intéressées pour participer. Et là aussi, peut-être sans grande surprise, le principal motif, c'était le manque de temps. Voilà, donc ça c'était à 70% le manque de temps. Après, il y a un autre motif qui est revenu et qui me semblait quand même intéressant à noter. C'était le sentiment de manque de compétences ou de légitimité. Alors, peut-être qu'il y a un biais par rapport au fait que dans la recherche d'experts que j'ai faite, je n'ai pas toujours identifié les personnes les plus pertinentes pour un ouvrage, donc ça c'est possible. Concernant le manque de légitimité, par contre, ça pose une autre question. Là, c'était plutôt des interlocuteurs, des jeunes chercheurs et chercheuses à qui je proposais d'annoter un ouvrage d'un père qui était plus expérimenté. Et donc ces personnes-là me disaient qu'elles n'étaient pas forcément à l'aise avec cette démarche-là, alors même qu'elles étaient dans une situation encore un peu précaire. Malgré tout, on a eu un intérêt manifesté dans les réponses, mais ça participait un petit peu à une réponse type au mail qui était « Bonjour, merci de m'avoir invité, c'est intéressant, mais j'aurai pas le temps d'y participer. » Donc au final, on a eu 32 personnes qui ont été contributrices aux annotations, sachant qu'il y a aussi des auteurs et autrices parmi ces 32 personnes, donc... Voilà, si on remet ça par rapport aux 385 personnes contactées, ça fait quand même un gros travail de contacter, de recherche de participants. Alors, maintenant, on va passer un petit peu sur la partie résultat, entre guillemets, même si, bien sûr, c'est une expérimentation délimitée dans le temps, avec un type d'usage en particulier à explorer, etc., donc avec ses limites, mais... En tout, on a eu 250 annotations produites, tous ouvrages confondus. Donc un chiffre comme ça, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ce qu'on a vu surtout, c'est que les annotations sont concentrées sur quelques titres seulement. En fait, on a eu 4 ouvrages qui ont eu 80% des annotations produites. Donc clairement, il y a des ouvrages sur lesquels ça a le mieux marché et d'autres moins. Et j'ai pas forcément les réponses aujourd'hui par rapport à ça, même s'il y a des pistes de réflexion. Les annotations, elles ont été produites en grande majorité par des lecteurs et lectrices, donc des personnes qui ont été sollicitées, invitées ou qui ont entendu parler de l'expérimentation, et à 18,5% par les auteurs et autrices qui sont investis. En fait, quand les auteurs s'étaient investis dans l'expérimentation, en général, ils faisaient vraiment le travail de répondre à quasi toutes les annotations. Enfin, il y avait quand même un vrai investissement de certains auteurs et autrices autour de cette expérience. Et au niveau de la temporalité de l'annotation, peut-être juste deux points notables. Le premier, c'est que en fait, les annotations elles ont été réalisées par palier. Palier qui en fait correspondait aux relances successives par mail que je pouvais faire auprès des personnes qui s'étaient montrées intéressées pour participer. Et également que ça se faisait sur un laps de temps très court. Donc les personnes, soit sur une journée, soit dans la même semaine sur quelques journées. Mais en gros, elles venaient, elles annotaient, puis ensuite, elles ne revenaient pas forcément. Alors, ça n'a pas duré... Enfin, ça a duré quelques mois seulement, donc est-ce que si on avait laissé plus longtemps, est-ce que ça aurait changé les choses? Voilà, ça c'est côté lecteur-lectrice. Après, les auteurs et autrices, bien sûr, ils revenaient plus pour répondre au fil de l'eau. Alors là, par contre, je pense que vous n'allez rien voir, non? Ça va? Ok. J'étais traumatisée tout à l'heure, mais... Du coup, j'ai tenté de faire une typologie d'annotation, en tout cas de les catégoriser, donc avec des catégories... non exclusive pour voir un petit peu comment les lecteurs et lectrices étaient saisis des annotations et quel type d'annotations ils avaient créées. Donc, la première catégorie qui revenait, c'était la catégorie que j'ai appelée enrichissement et en fait qui est assez large puisque elle rassemble des annotations qui vont avoir pour visée d'ajouter des éléments pour étayer les idées du texte, ajouter des exemples, des références, des aides à la compréhension du texte, voire des mises à jour. Donc en fait, ça a été vraiment une grosse catégorie, c'est-à-dire que les lecteurs et lectrices sont beaucoup investis pour essayer de vraiment enrichir les ouvrages et pas forcément pour exprimer une critique comme ça leur a été un petit peu proposé aussi au moment où je les invitais à participer, de par la dimension évaluation. Ensuite, on a deux catégories qui sont donc les catégories des critiques positives et négatives, entre guillemets. Pour les critiques positives, c'était des annotations qui venaient valider les contenus du livre, exprimer l'intérêt porté au livre annoté. On a même eu des annotations qui venaient complimenter les auteurs sur certains passages. Ensuite, on a eu dans les critiques négatives plutôt des contre-arguments, des annotations qui faisaient contredire ou nuancer les idées du texte, qui venaient exprimer aussi parfois des désaccords par rapport aux formulations, aux termes utilisés. On a même eu des personnes qui ont signifié des manques dans la publication, par exemple de références, de développement, et on a même eu quelques remarques concernant la démarche des auteurs et la méthodologie. Ensuite, on a eu une catégorie suggestions. Donc, en majorité, c'était des suggestions de précision, mais aussi, on a eu ce à quoi on ne s'attendait pas de base, quelques suggestions d'ordre éditorial, donc plus sur la forme. Et enfin, on a une partie, c'est la partie, enfin, deux catégories, la catégorie questions et la catégorie réponses. Donc là, c'est un peu les catégories qui nous renseignaient sur le potentiel interactif en fait du dispositif dans le cadre de cette expérimentation, surtout la catégorie réponse du coup. Et en fait, donc les questions en majorité, ce qui a pu être observé, c'est qu'elles étaient à destination des auteurs. On avait quelques questions qui étaient un peu plus larges et qui étaient propices à l'échange entre lecteurs et lectrices, mais en majorité, c'était quand même adressé à l'auteur. Mais je pense que c'est très lié à la manière dont l'expérimentation est amenée et en fait l'objectif justement d'évaluation de l'ouvrage qui était proposé. Et du coup, au niveau des réponses, c'était en grande partie des réponses produites de la part des auteurs. J'ai essayé de calculer le taux de profondeur des conversations en regardant en fait, en faisant des niveaux. Donc en fait, le niveau 1, c'était réponse à une annotation. Le niveau 2, c'était réponse à une réponse d'annotation, etc. Pour voir en fait si les fils de... Mais ça a été très rapide à faire parce qu'en fait, principalement, c'était des réponses de niveau 1. Les conversations n'allaient pas très très loin. Mais une fois de plus, est-ce que si ça avait duré plus longtemps, est-ce que les personnes auraient pu être mobilisées sur un temps un peu plus long? Voilà, je n'ai pas forcément la réponse. Donc en plus de, enfin après avoir observé ces annotations, ou en tout cas en parallèle, on a souhaité organiser des entretiens et des échanges avec les participants et participantes, donc côté auteur, autrice et côté lecteur et lectrice, pour avoir leur retour. N'étant pas une spécialiste de ces domaines-là, l'idée c'était de pouvoir avoir leur ressenti et savoir comment eux ils avaient vécu l'expérimentation, en tirer quelques conclusions. Donc tout d'abord sur leur motivation à participer. Alors il y a eu trois éléments qui sont revenus, un intérêt pour la démarche, un intérêt pour les ouvrages et le fait que l'expérimentation se déroule dans un environnement familier. Concernant l'intérêt pour la démarche, alors il y avait certaines personnes qui étaient intéressées par la démarche d'annotation numérique. Hypothésis étant par ailleurs déjà connue par certains chercheurs et chercheuses, mais envisagée pour d'autres types d'usages. Il y a plutôt, souvent l'usage pédagogique est revenu dans les échanges. C'était pas forcément envisagé pour ce type d'usage-là qui leur était proposé. On a eu aussi des personnes qui étaient intéressées par la démarche d'évaluation post-publication, et notamment beaucoup du côté des auteurs et autrices en fait, qui sont montrés, en tout cas parmi les personnes avec qui j'ai pu échanger, très intéressées par le fait d'avoir un retour de leurs lecteurs et lectrices, et du coup de ne pas juste voir l'ouvrage qui est publié, qui part avec potentiellement quelques comptes rendus, mais voilà. Donc des auteurs qui étaient intéressés par cette démarche-là, et aussi par le fait de potentiellement voir leur ouvrage enrichi et mis à jour pour des ouvrages qui avaient déjà quelques années de parution. Ensuite, l'intérêt pour les ouvrages, du coup, c'est plutôt côté lecteurs et lectrices qui ont accepté de participer à l'expérience. Et là aussi, deux points qui m'ont semblé intéressants. Le premier, c'était les personnes en fait, qui avaient prévu de lire l'ouvrage. Donc en fait, ce qui leur était demandé, ça ne représentait pas tant un surcoût de travail, puisque ça s'insérait dans leur travail de recherche ordinaire et dans leur travail de lecture ordinaire. Et là, on avait des personnes, par exemple, qui avaient prévu de rédiger un compte-rendu de lecture ou qui avaient prévu d'utiliser l'ouvrage dans leur bibliographie. Et donc, ce n'était pas une si grande surcharge que ça, ce qui leur était proposé. Et l'autre type d'intérêt, c'était les personnes qui étaient intéressées par l'ouvrage, mais aussi et surtout par le chercheur ou la chercheuse qui avait écrit cet ouvrage. Et là, ça touche plutôt à la dimension réseau de sociabilité qui peut concerner ce type de dispositif. Et on avait notamment une personne qui avait prévu de, enfin, qui allait rencontrer l'auteur de l'ouvrage qu'on lui proposait, et du coup qui avait vu cette expérimentation comme l'occasion de déjà de pouvoir commencer à découvrir son travail, et puis aussi de pouvoir commencer à échanger avec lui et commencer à un peu à interagir avec son futur collègue. Et comme je le disais tout à l'heure dans les stratégies pour contacter les participants, il y a pas mal de personnes qui ont été sollicitées par les auteurs et autrices, et donc on a aussi des annotateurs qui ont accepté dans ce cadre là, donc voilà, l'auteur étant un ami, donc pour l'encourager dans son expérimentation. Et voilà. Et le dernier point sur l'environnement familier, eh bien il y a le fait que en fait cette expérimentation d'évaluation ouverte par les pairs post-publication, etc., se fasse avec un cadre quand même, avec une personne dédiée pour les accompagner, etc., et aussi et surtout dans le cadre d'Open Edition, qui est quand même un acteur qui était déjà, pour la plupart des personnes contactées, identifiées, ça avait un effet rassurant et ça a pu avoir un effet engageant dans le cadre de cette expérience. À côté des motivations à participer, donc il y a quand même plusieurs éléments qui sont revenus et qui m'ont semblé pertinents à évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, c'était sur la question du dispositif, donc quelle appréciation ils avaient pu avoir du dispositif qui leur avait été, qu'ils avaient utilisé pour cette expérimentation. Eh bien, en fait, la plupart des personnes ne connaissaient pas forcément Hypothesis, mais étaient quand même déjà habituées à utiliser des outils d'annotation numérique, même si ce n'était pas celui-ci, donc elles n'étaient pas totalement perdues avec ce qui leur était proposé. Et globalement, les personnes ont trouvé que l'outil était quand même facile de prise en main et assez intuitif. Bon, vous aurez peut-être l'occasion de le découvrir demain. Il y a eu quand même certaines difficultés techniques qui étaient liées à ce qu'on a mis en place, que je disais au début, les publisher groups pour la fonctionnalité de modération, etc. J'ai pas trop le temps de m'étendre là-dessus, mais ça a pu peut-être avoir un effet dissuasif pour certaines personnes, notamment celles qui n'ont pas participé à l'expérimentation, parce qu'il y avait quand même un petit coup de main à prendre à ce niveau-là. Au niveau des stratégies d'annotation, alors peut-être qu'il en existe d'autres, je ne sais pas, c'est seulement par rapport aux personnes avec qui j'ai pu échanger. Mais en tout cas, il y en a deux qui sont revenus dans les échanges. La première, c'est les personnes qui annotaient au fil de l'eau de leur lecture. Donc au fur et à mesure qu'elles lisaient l'ouvrage, elles l'annotaient. Et la deuxième que j'ai trouvée intéressante aussi, c'est les personnes qui faisaient ça en deux temps. D'abord, qu'il y avait une pratique d'annotation en privé, et potentiellement sur un autre support, sur support papier en fait, et ensuite qui sélectionnaient les annotations qui leur semblaient pertinentes à être publiées et qui du coup utilisaient Hypothesis pour le faire. Et donc on voit qu'en fait on a deux démarches d'annotation qui sont différentes mais qui ici en tout cas ont pu être complémentaires, et on a même une personne qui avait déjà annoté l'ouvrage qu'on lui avait proposé et qui a trouvé intéressant de pouvoir confronter son regard de lecteur des années plus tard, de pouvoir reconsulter ses annotations et voir les choses avaient pu évoluer depuis. Ensuite, sur le temps passé à noter, parce que donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont répondu qu'elles n'auraient pas le temps de participer, que voilà, ça pouvait être chronophage, ce qui leur était demandé. Du coup, je me suis demandé ce qui prenait le plus de temps en fait dans cette expérimentation côté lecteur et lectrice, pardon. Et en fait, une fois de plus, je ne veux pas monter en généralité, mais de ce que j'ai l'impression des retours des participants et participantes, c'est que ce qui prend du temps, ce n'est pas tant le fait d'écrire des annotations, ce n'est pas le fait de rédiger les annotations, c'est le fait de lire les ouvrages. Et que du coup, les personnes ont plutôt une pratique de lecture qui va être rapide, sélective, en diagonale, avec beaucoup de publications, beaucoup d'ouvrages à lire, pas beaucoup de temps pour les lire. Et du coup, là, en fait, pour l'expérimentation, eh bien, comme il fallait quand même critiquer un peu les ouvrages en ligne, de manière publique, devant tout le monde, avec l'auteur qui allait lire les annotations, etc., eh bien, on ne pouvait pas trop se permettre de poser une question avec, alors qu'il y avait la réponse de paragraphes plus loin ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça a impliqué une lecture davantage cursive, attentive et linéaire que ce dont les personnes interrogées pouvaient avoir l'habitude. Et du coup, c'était au final ce qui est le plus chronophage, ce n'est pas le fait d'annoter, c'est le fait de lire, d'après, en tout cas, dans le cadre de cette expérimentation. Ensuite, sur la démarche d'évaluation publique et la question de la réception du message, donc quand on poste une annotation de manière publique, alors là, il y avait pas mal de choses qui sont revenues aussi, parce que c'était quand même aussi ce qui était au cœur de l'expérimentation, le fait qu'on était sur l'évaluation ouverte par les pairs, donc ça voulait dire que c'était public et que voilà, tout le monde pouvait le lire, notamment l'auteur. Et du coup, donc, comme on l'a vu au début, comme je le disais au début, on a certaines personnes qui ont refusé de participer parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes. Donc déjà, c'est un premier élément. Et parmi les personnes qui ont participé à la notation, quand même, globalement, elles ont essayé d'adopter un ton assez neutre, non professoral, pas essayer d'avoir un ton surplombant pour essayer d'un peu de lisser dans le cadre de la communication. Parce qu'on leur demandait aussi de faire une évaluation ouverte par les pairs, une fois de plus, si on leur avait demandé de faire un autre, enfin, on leur avait proposé un autre type d'usage, peut-être qu'il y aurait une liberté de ton plus systématique. Un autre point aussi, c'est qu'on a eu dans cette expérimentation des annotations qui ont été créées par quelques praticiens, parce qu'on avait aussi des ouvrages avec une visée praticienne et plus à destination d'un public de professionnels. Et on a pu échanger avec une personne notamment qui nous indiquait que, bon, alors elle n'était pas dans le même champ professionnel que celui des chercheurs, du coup pas forcément les mêmes logiques d'autorité, etc., les mêmes rapports d'autorité. Néanmoins, elle avait tendance dans ses communications avec la sphère de la recherche à adopter une stratégie où elle utilisait énormément de références, surenchère de références pour pouvoir justement se sentir légitime dans la communication avec les chercheurs et chercheuses. C'est le retour d'une personne, voilà, je ne veux pas généraliser. Mais... au contraire de un peu ces deux remarques, un petit peu dans une autre direction, on a aussi des personnes pour qui le fait qu'une annotation, ça a un caractère spécifique associé à vraiment une petite partie du texte, et le fait que c'est potentiellement un dispositif avec des pratiques de communication qui sont moins codifiées et institutionnalisées, ça permettait d'avoir une plus grande liberté de ton et que ça permettait de formaliser des critiques plus personnelles, presque de l'ordre de l'intime. Et on a notamment une personne qui a beaucoup apprécié participer à cette expérimentation et qui appréciait beaucoup ce type de dispositif de manière générale, parce que pour elle, ça correspond un peu à un rêve de lecteur de pouvoir, dès le livre, s'adresser directement à l'auteur. Bien sûr, quand on a l'assurance que la personne va répondre, ce qui n'était pas le cas pour l'ensemble des ouvrages de cette expérimentation. Et enfin, côté auteur, donc sur ces questions d'interaction, etc. Pour les personnes qu'on a interrogées, donc c'est des personnes qui ont eu des annotations sur leurs ouvrages et qui ont répondu aux annotations, et donc elles nous disaient que d'après elles, en fait, c'était il y avait une sorte de devoir de réponse qui était inhérent à la position d'auteur ou autrice, et que donc ça prenait, donc pour eux, la question de prendre, enfin, de la partie chronophage de la lecture ne se posait pas, puisque c'était leurs ouvrages. En revanche, les personnes ont pu s'investir sur déjà la compréhension en fait, des annotations qui étaient produites sur leur chapitre, avec certaines personnes qui allaient même se renseigner sur la démarche des auteurs et autrices de ces annotations, pour vraiment bien comprendre le sens de leur annotation et pour pouvoir y répondre au mieux. Donc il y a même une personne qui disait quand... on a une annotation intelligente, il faut y répondre de manière intelligente, donc ça prend aussi du temps. Voilà. Sinon, en termes de bilan, on leur a demandé si l'expérimentation avait été positive pour eux et s'ils accepteraient de refaire ce type d'expérience, et pourquoi pas en inversant les rôles, donc en tant qu'auteur pour les lecteurs et en tant que lectrice, inversement. Et donc, pour la plupart des personnes interrogées, en tout cas, le bilan, il a été globalement très positif. Pour côté auteur, les annotations ont été jugées pertinentes, les mises à jour bienvenues. Et côté auteur, côté lecteur, pardon, les personnes seraient OK pour participer aussi en tant qu'auteur ou autrice, mais sous certaines conditions. La première, c'était que les annotations, elles puissent être, enfin, que l'expérimentation et les annotations puissent être encadrées, comme c'était le cas ici, avec notamment des possibilités de modération. Alors, en fait, la modération, c'est un point qui est revenu à de nombreuses reprises dans les échanges, mais en tout cas, on n'en a vraiment pas eu besoin. Mais bon, en tout cas, apparemment, c'était quand même une crainte. Pour les auteurs en tant que lecteurs, donc pour participer en tant que lecteur et lectrice, que ça s'intègre dans le travail de recherche ordinaire, c'est-à-dire qu'on est à lire l'ouvrage et que ça ne représente pas du coup une surcharge de travail. En conclusion, donc comme je le disais, on a eu un bilan relativement inégal d'un livre à l'autre. Je n'ai pas de formule pour vous dire aujourd'hui, faites ça si vous voulez refaire une expérimentation dans le genre, faites ça, ça va marcher, ou faites surtout pas ça parce que sinon ça ne marchera pas. Je pense que ça doit être une diversité en fait d'explications. Est-ce que ça peut être des questions d'investissement des auteurs, parce que de ce que je pouvais en voir, quand les auteurs étaient investis dans l'expérimentation, ça avait tendance à plus marcher. Mais inversement, on a eu aussi un auteur qui a été quand même, qui a beaucoup communiqué, etc., qui a fait des annotations introductives sur son ouvrage et qui n'a pas eu d'annotation. Donc, il y a aussi des contre-exemples. Est-ce que c'est la capacité, du coup, enfin, oui, il y a la capacité à mobiliser un vivier d'annotateurs. Est-ce que c'est pas lié aussi à des spécificités disciplinaires, à des pratiques de communication spécifiques en fonction des disciplines? Est-ce que ça peut être lié aussi à la date de publication de l'ouvrage? Est-ce que ça va mieux marcher sur un ouvrage qui vient de paraître que sur un ouvrage qui est paru il y a certaines années? Est-ce que ça dépend? Est-ce que c'est un ouvrage de référence ou pas? Est-ce qu'il y a des ouvrages qui peuvent avoir plus un potentiel de débat que d'autres? Enfin, je pense qu'en fait, il y a, de mon côté, en tout cas, plus de questions que de réponses. En tout cas, au niveau des potentiels freins à la participation, il y en a un qui est clairement ressorti, c'était le manque de temps. Ce qui semble fonctionner pour ce type de dispositif, c'est quand vraiment ça s'intègre dans le travail de la recherche. C'est-à-dire que quand on vient demander, nous, c'était délicat, on allait contacter des personnes, parfois en leur disant, venez annoter cet ouvrage en particulier que vous avez peut-être déjà lu ou vous n'avez peut-être pas du tout l'objectif de livre à ce moment donné, pour faire tel type d'usage en plus, pour faire des évaluations ouvertes par les pairs, donc ça avait un effet assez contraignant quand même. Et un autre point, c'est sur la dimension publique, le fait qu'en publiant une annotation, et notamment quand c'est une annotation avec une visée critique ou d'évaluation ouverte par les pairs, il y a quand même un risque de l'exposition et il peut y avoir une crainte de la part de certains et certaines chercheurs et chercheuses à utiliser ce biais-là, d'autant plus que même si c'est sur un outil qui est par-dessus le livre et qui n'est pas dans le livre, eh bien, visuellement, quand même, c'est comme si on annotait directement l'ouvrage, en fait. C'est quand même un point aussi à prendre en compte. Et là, en fait, les personnes qui ont beaucoup échangé entre elles, pour la plupart, c'est des personnes en fait, qui appartenaient un petit peu au même cercle ou qui se connaissaient déjà ou qui connaissaient déjà un petit peu l'auteur. Alors, pas que, mais il y en a eu quand même pas mal. Et du coup, se pose la question aussi d'avoir un espace de conversation plus inclusif avec une diversité aussi de personnes et puis de créer des réseaux de sociabilité avec des personnes qui ne se connaissent pas forcément déjà. Ça a été notamment le regret d'un des chercheurs qui a participé en tant qu'auteur, c'est que les personnes qui ont annoté son ouvrage, en fait, ils les connaissaient déjà quasiment toutes. Et très rapidement, parce que j'ai un peu dépassé. On a tous un peu dépassé. Au niveau des intérêts que j'ai pu noter, au niveau des ouvrages, quand même, la manière dont ça a été jugé, les annotations ont été perçues comme enrichissantes, elles permettent de tenir des mises à jour. Il y a eu un impact sur la consultation des ouvrages, mais aussi parce qu'il y a eu un effet communication autour de cette expérimentation. Donc même les ouvrages qui n'ont pas forcément eu d'annotation, on a vu qu'il y a quand même eu un trafic qui a été généré. Aussi peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées voir ce qui se passait Et il y avait un effet aussi, j'avais pas eu le temps de le dire, mais comme je dépasse de toute façon, je peux y aller. C'est que en fait, quand il n'y a pas d'annotations qui sont produites, bah, parfois il y a le premier pas à faire. La première personne qui va s'exprimer, la première personne qui va poser une question, peut-être un peu comme dans les lieux en présentiel d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que voilà, la démarche de certains lecteurs et lectrices avec qui j'ai pu échanger, c'était d'aller voir les annotations. Et d'ailleurs, Hypothesis ne permettait pas d'avoir une vision sur l'ensemble du livre, parce que chaque chapitre correspond à une page HTML, et ça c'est un regret, parce que une des premières choses que certaines personnes faisaient, c'était d'aller voir ce que les autres avaient fait avant de se lancer dans l'expérimentation. Sinon, ça permet d'avoir d'encourager une pratique de lecture attentive et cursive, etc. Quand ça s'insère pas, quand c'est pas un travail demandé en plus, ça c'était quand même un point aussi qui était intéressant, qui avait été noté par les personnes qui ont participé. Globalement, les personnes qui ont participé, auteurs comme lecteurs, ont quand même été globalement enthousiastes. Donc je pense que c'est quand même un point aussi intéressant, un intérêt potentiel à relever. Et au niveau de réseau de sociabilité, ça peut représenter quand même un espace de socialisation, ça peut être un lieu de communication, en fait, comme tout autre lieu de communication, qui me semble moins codifié que les séminaires ou les comptes rendus de lecture ou d'autres types de communication. Après, peut-être que des codifications que je ne connais pas forcément, mais du coup, ça me semble quand même intéressant aussi que ce soit un lieu peut-être encore à codifier en termes de dimension interactionnelle. Mais peut-être que tu auras des avis là-dessus. Merci.